Amen, bonjour à toutes et à tous, ça me fait très plaisir de vous voir. Je ne l'ai pas trop dit à tout le monde, mais j'étais en quarantaine. Alors, vous savez, après une quarantaine, revoir des gens, c'est comme une sortie de prison, quoi. Enfin, on peut revoir des gens, c'est trop bien. J'ai été chercher mon lait chez le paysan, et puis je ne lui ai jamais parlé autant que cette fois-là. Puis il a dû se dire, ben, il était bien luné, ou je sais pas, il en avait presque marre, le pauvre. Mais c'était la première personne que j'ai vue, c'était mon paysan qui me donne le lait. Et puis, bon, il va bien. Vous savez, c'est le paysan de génération en génération, c'est encore le père qui est là, avec le fils, et qui donne le lait. Voilà, enfin, il donne. On lui paye à peu près le prix correct. Hein, je vous encourage à trouver un paysan qui vous donne le lait en direct. Peut-être sera utile dans les temps qui vont venir. On va devoir s'organiser un peu, vous verrez. Bon, on a le temps de reparler. Je vous propose quelques instants de vous retourner vers la personne à côté de vous et puis de vous permettre une folie. Vous enlevez votre masque et vous lui faites un sourire. D'accord ? Mais après, vous le remettez assez vite. Hein, vous ne crachez pas. Voilà, vous faites un beau sourire. Bonjour, bienvenue. C'est quand même terrible hein, de ne pas pouvoir se voir. Vous prenez une bonne respiration aussi, ça fait du bien. Voilà. Alors ce matin, nous allons poursuivre et même terminer, il faut bien terminer une fois, notre série « Valeurs ». Donc on aurait pu encore en voir plein d'autres. Mais j'espère encore que ce matin, vous allez pouvoir recevoir une petite part de révélation de la part de Dieu, de son esprit. Je vous rappelle un tout petit peu ce qu'on a vu, c'est toujours bien de répéter. Je ne fais pas long, mais simplement dire qu'on a vu la valeur du pardon, l'accueil et l'amour sans condition, la dignité, l'égalité, croire dans le potentiel d'autrui, la foi éprouvée. Là, il y a deux fois, c'est pas normal. La foi éprouvée une deuxième fois, c'est vraiment bien que vous fixiez ça. Le message du 11 octobre. La compassion et l'intégrité que Jean-Jacques nous a apporté. Et puis, aujourd'hui, on va parler de la valeur de la sagesse. C'est pas mal, hein. J'espère qu'on va tous être très sages. Donc tout comme la foi éprouvée a plus de valeur que l'or, je ne sais pas si vous vous souvenez que j'avais parlé de ce verset-là qui disait ça, hein, la foi éprouvée a plus de valeur que l'or, eh ben, nous pouvons lire dans les Proverbes quelque chose de similaire, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Proverbe 8, verset 11, puis le Proverbe 16 nous dit « Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or ». Alors, c'est une bonne nouvelle, non ? Puis c'est quelque chose de gratuit en plus. Ça vaut plus que l'or, c'est magnifique. Ce n'est pas la valeur refuge, l'or, c'est la sagesse. Alors, Dieu a créé le monde avec sagesse. Peut-être ça vous semble logique, hein, mais quand on regarde le monde autour de nous, oui, on peut louer Dieu, on peut s'extasier. Proverbe 3,19 nous dit « C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre ». Et puis les rois de la terre, pour parler un peu de la sagesse, ils venaient vers Salomon qui avait reçu la sagesse de Dieu et il était reconnu pour cela. On lira un verset plus tard. Jésus lui-même, il a même parlé de la sagesse, il a personnifié la sagesse en disant quelque part « je suis la sagesse », il ne l'a pas dit exactement comme ça, mais il incarnait cette sagesse de Dieu sur la terre. Il a grandi en stature et en sagesse devant les hommes et devant Dieu. Et puis quand il enseignait, les gens l'écoutaient parce qu'il avait de la sagesse. Matthieu 13, 54 nous dit « Il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?» Vous vous souvenez, hein, c'est ce texte, c'est un enfant de Nazareth, on le connaît. Mais d'où se fait-il qu'il ait une sagesse comme ça ? Et puis Paul, il prie aussi pour les croyants de Colosse, afin qu'il soit plein de sagesse pour marcher d'une manière digne du Seigneur et puis lui être entièrement agréable, portant des fruits. le résultat de la sagesse. Il prie pour cette sagesse sur les chrétiens, les croyants. Puis bien sûr, on parle aussi de la sagesse dans Jacques, où il est fait l'éloge de la sagesse. On en parlera aussi aujourd'hui. Alors, quelle idée avez-vous à propos de la sagesse? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que la sagesse, c'est le truc des vieux? Les cheveux blancs? C'est une parure magnifique, ceux qui ont des cheveux blancs, vous savez, bibliquement parlant. Est-ce qu'il faut avoir 80 ans et plus pour avoir de la sagesse? C'est quoi la sagesse? Alors, c'est vrai que moi, on m'a souvent dit, je ne sais pas si vous aussi, mais on m'a souvent dit « sois sage ». C'est pas moi, mais ça aurait pu, avec les lunettes. Sois sage. C'est nos parents qui nous disent ça. Sois sage. Qu'est-ce que ça veut dire, sois sage? Quand j'y pense, je me dis, mais est-ce que c'est une bonne idée de dire à son enfant, sois sage? Franchement. Moi, je suis pas sûr qu'un enfant, il sait ce que ça veut dire. En tout cas, c'est implicite. Ça veut dire plein de choses, en fait. Ça veut dire ne bouge pas. Reste tranquille, ne fais rien de mal, surtout donc pas de bêtises, ne touche à rien. Là, tu restes là, tu fais rien, sois sage. Là, et puis sois poli avec les grandes personnes. Si on le met à quelque part ou chez des gens, il y a toujours ce petit côté, surtout bons parents que nous sommes, on dit ah, j'espère que ça va bien se passer. Puis surtout qu'il dira pas ce truc-là. Sois sage, mon fils, sois sage. On le laisse avec un petit peu sur la pointe des pieds, comme ça. Ou ne pleure pas. Il y a un certain âge où on les met chez quelqu'un, puis à tous les coups, ils pleurent. Donc, sois sage, ne pleure pas, fais pas d'histoire, suis tout ce qu'il faut suivre. C'est un peu ça. Fais le mouton. Un bon mouton. Voilà. Donc, si la sagesse, elle est égale à l'inaction, l'immobilité, à rester dans le moule, ça ne fait pas hyper envie d'être sage. Vous êtes d'accord? Si, c'est ça qu'on a en tête. Alors, je vais bien sûr sortir de ce cadre-là pour vous parler un petit peu de qu'est-ce que la Bible dit sur la sagesse. Donc, la Bible parle énormément de la sagesse. On parle des livres de la sagesse que vous connaissez certainement, Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Donc, c'est ces livres-là qu'on parle des livres de la sagesse. Et puis, on va donc voir plusieurs versets, principalement dans les proverbes aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport à la sagesse dans l'Ancien Testament, c'est que ce n'est pas une attitude morale ou une qualification intellectuelle, mais c'est une connaissance pratique fondée sur l'expérience. D'accord ? Une connaissance pratique fondée sur l'expérience. Pour les Grecs, la sagesse, elle se fonde sur les idées. Donc c'est ce qu'on l'a défini aujourd'hui par la philosophie. D'accord ? Philo, c'est celui qui aime, et puis Sophia, c'est la sagesse. Donc la philosophie, c'est cette idée que c'est basé sur les idées. D'accord ? Et puis la sagesse dans l'hébreu, c'est chokma. Eh bien, elle s'appuie sur l'observation et l'expérience. OK ? Donc, l'écriture peut varier en français, mais chokma dans l'hébreu. Alors, pour vous faire une petite application toute simple, je vais vous donner un petit brin de sagesse. La connaissance est de savoir qu'une tomate est un fruit, alors que la sagesse est de savoir qu'il ne faut pas mettre des tomates dans une salade de fruits. C'est pas mal, ça. Je suis sûr que ça va beaucoup vous aider si vous pensiez faire une salade de fruits avec des tomates. D'accord ? Donc, il y a une réelle différence. La sagesse, chokma, est une capacité pratique. Ce n'est pas le truc, justement, des vieux. C'est le truc pratique que Dieu nous donne dans la vie de tous les jours. Donc, ce n'est pas une science. Un théologien américain, William Dearness, tu voulais encore rapide. Voilà, faites les photos. Tu me prends avec, non? Bon, je vous redonnerai le PowerPoint, ceux qui le souhaitent. C'est toujours possible à part ça. C'est vrai qu'on ne le dit pas souvent, mais si vous voulez les présentations du prédicateur, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à demander. Donc, William Dearness, la sagesse est fondamentalement la capacité pratique d'être habile et de réussir dans la vie. Et puis il va même aller plus loin, puis il va dire que la sagesse est l'expression de la vie d'adoration dans la famille et sur la place du marché. Donc vraiment dans la vie de tous les jours. C'est une manière d'adorer Dieu, de montrer qui il est. Il dit c'est la religion en dehors de l'église. J'avais jamais vu comme ça, la sagesse. Donc la sagesse, elle fait une différence dans la vie de tous les jours et on en a besoin. Et peut-être on a besoin de redécouvrir son importance et son sens. Alors ce matin, j'aimerais bien qu'à la fin, c'est ma prière, qu'à la fin de ce message, on puisse dire ensemble, mais je désire recevoir la sagesse du Dieu vivant. La sagesse de Dieu, elle doit être répandue abondamment sur ses enfants. Puis dans ce monde où on a des mesures qui s'ajoutent bientôt quotidiennement, je crois qu'on a besoin d'autant plus de cette sagesse concrète dans notre vie pour discerner et pour briller, pour faire une différence. Imaginez, moi ce serait une bénédiction incroyable, imaginez que des gens viennent vers vous pour chercher la sagesse de Dieu. Imaginez que les gens reconnaissent qu'en vous, il y a quelque chose de différent, qui s'appelle la sagesse de Dieu, et qu'ils viennent chercher des conseils. Imaginez que nos politiciens se tournent vers des chrétiens pour chercher la sagesse. Ce serait pas merveilleux, ça ? On peut prier pour ça. Alors, la sagesse, elle touche donc notre conduite, elle touche notre attitude, elle touche notre langue, bien sûr, nos prises de décision, notre compréhension du monde, notre réponse face aux circonstances. Et dans les proverbes, la sagesse, elle est souvent associée à l'intelligence et au discernement. Quelque part, l'intelligence, la sagesse, le discernement vont vraiment ensemble. Alors, je vous montre juste quelques versets. Proverbe 8, 12, moi la sagesse, vous savez le proverbe 8, ça parle vraiment de la sagesse, c'est la sagesse personnifiée, donc l'auteur parle en jeu, c'est la sagesse qui parle, moi la sagesse, j'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. D'accord ? J'habite le discernement et je possède l'art de la réflexion. Proverbe 10, 23, la sagesse appartient à l'homme intelligent. Proverbe 14, 8, la sagesse de l'homme réfléchi lui fait discerner sa voie. Puis Proverbe 14, 8, dans un cœur intelligent, la sagesse repose tranquillement. C'est beau, hein ? Donc la sagesse, elle vient de Dieu, c'est Dieu qui la donne, c'est aussi dans le proverbe qu'on peut lire. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Donc ça vient de Dieu. Et puis je parlais tout à l'heure de Jacques qui va dire, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Car il donne à tous généreusement, et sans faire de reproche. C'est génial, il ne va pas vous reprocher de manquer de sagesse, il va vous la donner généreusement si vous lui la demandez. C'est lui, l'Éternel, qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Alors avant de demander, c'est ce qu'on fera à la fin de ce temps, mais j'aimerais encore vous donner quelques plus-value finalement que peut apporter la sagesse dans notre quotidien. Donc la sagesse donne l'habileté dans notre travail. Je ne sais pas si vous dites bien sûr, mais on va regarder quelques exemples. On va lire deux versets dans 1 roi au chapitre 7. Donc je vous parlais de Salomon tout à l'heure. Et puis, dans ce texte, c'est le moment où Salomon construit le temple. Donc vous vous souvenez que David avait reçu, le roi David, son père, a reçu les plans du temple, et c'est David et c'est Salomon qui va le mettre en œuvre. Alors, en Samuel 1 roi 7, versets 13 et 14, il est dit « Le roi Salomon fit venir de Tyr un certain Hiram. C'était le fils d'une veuve membre de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien, et il travaillait le bronze. » Hiram était rempli de sagesse, dans Rokhma, d'intelligence et de savoir-faire pour fabriquer toutes sortes d'objets en bronze. Il arriva auprès du roi Salomon et il réalisa tous ses travaux. Donc le roi Salomon, lui qui avait reçu un don de sagesse, sagesse de Dieu, il va chercher un homme qui est doué dans sa branche, qui travaille le bronze, pour réaliser le temple de l'Éternel. Et donc pour réaliser selon les plans qui étaient établis par David, comme je l'ai dit. Donc l'homme que Salomon choisit, c'est Hiram. Et le texte donc nous dit qu'il était rempli de sagesse. Est-ce que ce n'est pas étonnant? Donc la sagesse vient lui donner une habileté particulière. Puis Salomon, il l'a compris. Il aurait pu certainement aller chercher d'autres, mais c'est ce gars-là qu'il était prendre. Hiram, c'est lui que je veux, parce qu'il a la sagesse. Ça le distinguait dans son travail. Alors je vous pose la question, mais qu'est-ce qui vous distingue dans votre travail? C'est peut-être le sujet de conversation à la pause qui vous distingue, c'est bien. Mais est-ce que Dieu ne pourrait pas vous distinguer aussi dans l'habileté, dans votre habileté qui est manuelle? Un autre exemple se trouve dans Exode 31. Donc Dieu a donné toutes les instructions à Moïse pour qu'il puisse construire le tabernacle, donc c'était le premier temple, hein, le temple mobile, on pourrait dire. Et puis Dieu, il ne va pas s'arrêter là, il va aussi lui donner justement des sages ouvriers. On va regarder ça dans Exode 31, les versets 1 à 3 et le verset 6. L'Éternel parla à Moïse et dit « Sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. » Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, de nouveau, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Holiab, fils d'Azimak, de la tribu de Dan. J'ai mis de la sagesse, Rokma, dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Amen. Donc, il leur a donné dans leur esprit, il a mis la sagesse, il a soufflé pour les remplir d'habileté, pour faire l'œuvre qu'il leur avait confiée. Et il veut toujours faire ça avec nous. Il veut toujours nous donner, nous remplir de sa sagesse pour faire ce qu'il nous appelle à faire. Alors, beaucoup rient, hein, je l'ai redit plusieurs fois, beaucoup rient lorsque je dis que j'ai été chauffeur poids lourd. Hein, David a été berger avant d'être roi. Moi, j'étais chauffeur poids lourd avant d'être berger. Hein, c'est pas mal. Donc, c'est vrai que je ne me considère pas comme un grand manuel. Et pour ceux qui me connaissent, ils doivent me donner un marque. Lui, c'est un grand manuel. Il doit venir m'aider pour quand je dois faire un plancher. Ou voilà. Bon, je peux quand même planter un clou. Hein, mais disons que ce n'est pas hyper droit. Mais on s'en sort. Non, mais voilà, je suis pas un grand manuel. Et puis, je sais que Dieu m'avait placé là pour un temps, mais je vous assure, parfois, j'avais en fait les chocottes. Et vraiment, je savais que je devais aller à tel endroit. Bon, voilà, un camion remorque, c'est à peu près 18 mètres. Et puis, je savais qu'il fallait. Je me disais déjà le jour d'avant, ok, demain, je dois aller parquer ma remorque dans ce truc. C'est des trucs de fou parce que ceux qui construisent les magasins, souvent, ils pensent au magasin, mais pas au quai de livraison. Donc, on se retrouve dans des petits espaces. Et puis, il faut venir là avec une remorque. Alors, des fois, je flippais déjà le jour d'avant. Puis, le soir, j'étais là. Et puis, finalement, ben, je demandais au Seigneur. Je dis, mais Seigneur, donne-moi ta sagesse. Donne-moi les capacités pour l'habileté pour faire ce travail que tu m'as confié aujourd'hui. Parfois, j'arrivais devant le magasin, j'étais là. Parce qu'après, il y a le gars qui attend pendant 10 minutes que tu manœuvres. Alors, je disais, non, il ne faudrait pas qu'il attende trop longtemps. Donc, j'étais un peu stressé. Et puis, après, je regardais et je dis, ah ouais, j'ai réussi. Ouais. Mais moi-même, je doutais des fois de moi-même. Je dis, mais Dieu était là, dans ce travail manuel, dans ce... Voilà. Et que j'aimais quand même, hein, même si parfois j'avais les chocottes. Donc il y a une plus-value dans notre travail si nous demandons la sagesse. Donc essayez. Deuxième point, la sagesse nous enseigne et nous guide sur le chemin de la responsabilité. Êtes-vous responsable de quelque chose ou de quelqu'un? Oui, non? Oui, ok. Oui, bien sûr, on est tous responsables. Déjà, on est responsable de nos actes, c'est pas mal. On est responsable de nos choix aussi, c'est pas moi qui suis responsable de vos choix, c'est vous. Nous sommes responsables de nos enfants, nous sommes responsables justement de la tâche qui nous est confiée. Nous sommes peut-être responsables d'employés, si on a des employés sous notre responsabilité. Nous sommes responsables de quelque chose, c'est certain. Donc, dans les différentes notions de la sagesse biblique, donc de Chokhmah, ben, il y a toujours la notion de la responsabilité. Dans la pensée de l'Ancien Testament, Une responsabilité implique la sagesse. Une responsabilité implique toujours la sagesse dans la pensée biblique. Donc le meilleur exemple est effectivement celui des parents. Et dans le livre des Proverbes, on retrouve plusieurs fois, bien sûr, la sagesse, je l'ai dit, mais souvent la question du père et du fils. Hein, je vous donne juste deux exemples où il est dit « Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne délaisse pas l'enseignement de ta mère. » Hein, c'est beau. Hein. Voilà. Il ne faut pas citer des versets à vos enfants comme ça. « Tu connais le proverbe ?» Non, il y a d'autres moyens, mais c'est quand même là. Hein. Si vraiment vous ne savez plus quoi faire, dis « Lis Proverbe 1.8, va !» Voilà. Proverbe 4.1, « Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, prêtez attention pour connaître l'intelligence. » Donc, bien sûr, ici, vous ne voyez pas le mot « sagesse », d'accord ? Mais en fait, la sagesse, elle est inhérente à la responsabilité du père et de la mère. Donc, du moment qu'ils ont une responsabilité sur l'enfant, eh ben, il y a la sagesse avec. Et l'enfant peut regarder ou doit écouter, finalement, parce que leur responsabilité implique la sagesse. Donc, c'est la sagesse qui va vous conduire, nous conduire sur le chemin de la responsabilité. Plus on grandit en sagesse, plus on devient responsable, plus on devient de bons responsables. Je vais le dire comme ça, on devient des responsables responsabilisés. D'accord ? C'est pas mal, on a besoin aussi. Alors, on a besoin donc de grandir en sagesse pour grandir dans les responsabilités que Dieu nous a confiées. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà fait, est-ce que vous aviez déjà fait le lien entre votre responsabilité, là où vous êtes, et puis la sagesse de Dieu ? Peut-être pas. Je vous invite à le faire. Alors, tout ce que je vous dis là ne va pas aller sans ce troisième point. C'est peut-être le plus important. C'est pour ça que je l'ai mis en troisième. En fait, c'est le 1 que je mets en 3. Comme ça, vous repartez bien avec le 3. Hein ? C'est malin. Haha. Alors, la sagesse nous garde dans l'obéissance à la volonté de Dieu. La recherche de la sagesse, elle est, bien sûr, elle est universelle. Et c'était déjà le cas au temps biblique. Hein, comme je l'ai dit en introduction, on venait du monde entier pour rencontrer Salomon. Il est dit en Rois 5,14, « Des gens de tous les peuples, envoyés par tous les rois de la terre, qui avaient entendu parler de la sagesse de Salomon, venaient écouter cette sagesse. » On venait de loin, on voyageait longtemps, puis ce n'était pas avec des avions, hein, pour venir écouter la sagesse de Salomon. Et puis l'universalité de la sagesse, elle se remarque en lisant le livre des Proverbes, et c'est d'ailleurs un style littéraire qui est très particulier et qui se répondait facilement. Hein, un proverbe, aujourd'hui on utilise encore plein de fois des proverbes dans notre langage courant, bah, c'était déjà le cas. Et même les gens environnants, pas forcément chrétiens, parfois connaissaient des proverbes de sagesse qui étaient tirés de la parole de Dieu. Donc, c'était quelque chose de connu. Mais bien sûr, il y a une grande différence entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Puis, il ne faut pas confondre. Hein, vous savez, des fois, il y a des petits trucs de sagesse. Vous allez au restaurant, puis il y a un petit coquillage, là, puis il y a des petites paroles de sagesse. Hein. Et puis, c'était tellement bien, cette parole de sagesse. Attention, ce n'est pas la même sagesse qu'on parle ici. Et Proverbe 9, 10... Mais ce n'est pas le seul verset qui nous le dit. Il dit le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. En fait, toute la différence est là. La crainte du Seigneur, c'est vraiment le point de départ qui conduit à la sagesse. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire la crainte du Seigneur ? On va le voir un peu. Mais déjà, si tu considères Dieu comme il se doit, à la place, tu le mets à la bonne place. Si Dieu est au-dessus de tout, si tu considères que Dieu règne sur tout, si tu dis, mais Dieu, il sait tout, il connaît tout, il est partout, il maîtrise tout, alors là déjà, tu peux commencer à connaître la sagesse. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur, mais c'est quand même le reconnaître comme supérieur. Et c'est vrai que parfois, même des fois, nous chrétiens, on dit « bon, on a un peu perdu la crainte de Dieu ». Ce n'est pas qu'on n'a plus peur, mais c'est une réalité que, grâce à Jésus, eh ben, on a une relation proche avec Dieu, une relation de père-fils Et à quelque part, on dit souvent, il y a des fois ce chant qui dit « on est amis de Dieu ». Mais Dieu est Dieu. Dieu règne. Dieu juge. Mais à la fois, il est juste. À la fois, il console. À la fois, il est amour. Mais Dieu est au-dessus. Puis on le voit dans tout ce qu'on vit aujourd'hui. Il est au-dessus. Il règne. Donc on doit le garder à cette place de supériorité. Crainte de Dieu, c'est aussi le révérer. C'est aligner mon comportement à sa volonté. C'est lui être attaché. C'est lui être fidèle. Donc je ne peux pas prétendre être sage si je ne commence pas par craindre l'Éternel et si je ne suis pas connecté à lui. Je pense que ça vous est tous déjà arrivé de répondre trop vite à un message qui vous a énervé, qui vous a frustré ou peut-être blessé. Vous êtes d'accord, vous voyez la situation. Surtout maintenant avec WhatsApp, on n'a pas l'intonation des gens. Quelqu'un écrit un truc, puis tac, ça nous pique un peu là. Et puis hop, ta-ta-ta-ta-ta-ta, des fois c'est avec la bouche, les messages vocaux, etc. Donc on répond sous le coup de l'émotion, et puis les mots sont rarement bien choisis dans ce genre de situation. Alors, bien sûr que c'est sage déjà de répondre plus tard. Ça c'est sage. Mais ça ne veut pas dire que vous allez répondre juste. Parce que ce qui va faire la différence, c'est d'aller vers le Père. C'est d'aller prier, c'est d'aller chercher sa volonté et demander sa sagesse. Puis vous verrez que souvent, vous n'allez même pas répondre. C'est pas mal, en plus. Hein, moins de boulot après, il n'y a plus besoin de répondre. Laisse aller mon fils, je m'en occupe. Non. Mais moi, j'ai eu un bon exemple cette semaine, où justement, avec toutes ces mesures et tout, ça m'a énervé. Franchement, ça m'a énervé. Et puis, j'ai pris mon attel et puis j'ai un peu, voilà. Non, mais bon, enfin, voilà, j'étais, on va dire, mes mots n'étaient pas virulents, mais disons qu'on sentait que ça n'allait pas, quoi. Puis après, je dis, je suis bête. Pourquoi je n'ai pas été vers Dieu tout de suite? Je me suis mis à genoux, j'ai prié, j'ai crié. Je dis, je n'ai pas juste prié, j'ai crié, hein, c'est aussi prier. J'ai exprimé à Dieu toute cette frustration. Puis après, la paix, incroyable. Bon, ben là, si j'avais pris mon attel, ça aurait été complètement différent. Parce que lui, à quelque part, avait parlé, lui avait solutionné, lui avait mis cette paix qui me faisait pas craindre du tout. Donc la sagesse, elle me garde connectée à Dieu. Et c'est une bonne chose. Donc si on veut être sage, ben on veut alors chercher la volonté de Dieu. On veut être soumis à Dieu, on veut être connecté à Dieu. Et je reviens avec nos autorités. Parfois, on prie pour nos autorités, puis on demande, Seigneur, donne-leur la sagesse. Vous êtes d'accord, on a déjà prié ça. Mais est-ce qu'on ne devrait pas leur demander de prier, Seigneur, donne-leur la crainte de Dieu? Parce que quelle sagesse? Une sagesse humaine? On n'en veut pas de la sagesse humaine. Donne-leur la crainte de Dieu. Job, il va même dire, Job 28:28, « La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. » Donc déjà, juste le fait de craindre l'Éternel, c'est déjà la sagesse, c'est déjà être sage. Il n'y a donc pas de sagesse en dehors de Dieu, en dehors de toute obéissance, de confiance en Dieu et sa volonté. Donc cette sagesse qui va s'exprimer dans notre vie quotidienne, elle va naître de notre vie de prière, de notre fidélité, de notre obéissance, bien sûr de notre intégrité, il a été question d'intégrité la semaine dernière, de notre amour, de notre écoute du Saint-Esprit. Si la sagesse a tant de valeur aux yeux de Dieu, c'est parce qu'elle nous qualifie dans notre quotidien. Elle nous donne l'habileté dans la vie pratique, tout en nous gardant connectés à lui. On l'a lu, on l'a vu ce matin, la sagesse habite le discernement. Et je crois qu'on a besoin de discerner les temps que nous vivons. On a besoin de sa sagesse. Et ce matin, j'aimerais que, oui, nous puissions demander vraiment la sagesse ensemble. On a lu, on peut demander, si on a besoin, il va nous donner. Et Et je suis convaincu qu'on en a besoin pour gérer notre vie au quotidien, pour gérer notre travail, pour gérer nos relations, pour gérer nos finances. On a besoin de sa sagesse. Et on va prier pour ça. Mais j'aimerais aussi ce matin qu'on puisse prier en Église pour que nous soyons le peuple de Dieu habité par la sagesse de Dieu, avec cette crainte de Dieu qui nous donne sa sagesse, pour que nous fassions une différence. Et vraiment, moi, je crois qu'il est nécessaire que l'Église se lève, qu'il est nécessaire que l'Église fasse une différence dans ce temps. Il est nécessaire que l'Église soit habitée de la sagesse de Dieu. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Et peut-être que ce souhait, cette prière de voir des personnes qui se tournent, des politiciens, des hauts placés qui se tournent pour chercher la sagesse de Dieu sera là. Mais si on n'a pas ou si on ne demande pas cette sagesse, ils ne vont jamais le faire. Donc de toute manière, on en a besoin. Si vous êtes d'accord de prier avec moi pour ces deux choses ce matin, à la fois notre vie personnelle, réaliser que c'est une plus-value, c'est génial, la sagesse de Dieu, ce n'est pas un concept philosophique justement, ce n'est pas une science, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel pour juste certains, c'est pour moi dans ma vie quotidienne, c'est pour moi pour gérer ma famille, c'est pour moi pour mes finances, c'est pour moi pour mon travail, mais c'est aussi pour le peuple de Dieu qui doit discerner les temps. Vous êtes OK, amen avec ça? Ça vous va si on... Vous n'êtes pas obligé d'incliner les têtes, hein, je rigole, parce que des fois, Camille l'a dit tout à l'heure, on incline les têtes. Non, si vous ne voulez pas incliner les têtes, inclinez pas les têtes, mais on va prier, en tout cas, ensemble. OK? Et puis, je vais prier, mais si vous souhaitez, maintenant, juste... c'est super, on n'est pas beaucoup. On peut réagir, vous pouvez prier à haute voix, vous pouvez parler, répondre dans ce temps. Alléluia. Merci Jésus.